Fille du vivant, Père Philippe, 10 février 1984, Saint-Joseph.
Se rattache à une opération vitale précise. Existe-t-il une opération déterminée pour le concupiscible et l'irascible? Alors, comprenons bien. Est-ce que les passions se rattachent à une opération vitale précise? Les passions sont une opération vitale. Elles sont une certaine opération vitale. Parmi les opérations vitales, vous avez les trois degrés de vie. Opération vitale quand vous mangez, quand vous respirez, c'est une opération vitale. Opération vitale quand vous avez au-dedans de vous-même une certaine passion d'amour, c'est une opération vitale. Vous avez une opération vitale dans le point de vue de la haine, dans le point de vue de la tristesse. Ce sont des opérations vitales. Ce sont des opérations vitales qui correspondent à tel degré de vie, l'opération vitale d'intelligence et de volonté. Donc, vous voyez bien. Donc, quand on pose la question, est-ce que les passions se rattachent à une opération vitale précise? Les passions sont une opération vitale précise. Opération de la vie sensible animale. Deuxièmement, existe-t-il une opération déterminée pour le concupiscible? L'amour. Est-il une opération déterminée pour l'irascible? La colère. Nous avions vu, si vous vous souvenez, les 11 passions. Je vous les ai données. Eh bien, les 11 passions sont 11 opérations précises. 6 pour le concupiscible, 5 pour l'irascible. Bon. Dans quelle faculté ou quelle partie du corps faut-il localiser l'amour? Dans le concupiscible. C'est dans le concupiscible. C'est le concupiscible qui est le lieu, qui est la faculté de notre amour passionnel. Alors, le concupiscible, où est-ce qu'il se loge? Vous avez un concupiscible. Du côté de l'appétit naturel à l'égard de la nourriture. L'appétit naturel à l'égard de la boisson. Alors, aujourd'hui, on précisera des glandes particulières qui, avec un appétit particulier. C'est très intéressant à préciser au point de vue capacité, causalité matérielle, ce que nous cherchons avant tout au point de vue philosophie, vous voyez, parce qu'il faudrait compléter. Je suis tout à fait d'accord, ce serait très intéressant d'avoir du côté biologique, dans la mesure où on peut le préciser du côté biologique. C'est très difficile. Parce qu'on prend le point de vue de la détermination matérielle. Vous voyez, c'est là toujours, et c'est pour ça que ce sont des questions très difficiles, ces questions-là, à préciser, parce que nous précisons, nous, au point de vue philosophique, à partir de l'âme. L'âme, elle est dans le corps. Tout le corps est habité par l'âme, puisque l'âme est indivisible. Donc tout le corps est habité par l'âme. Mon âme, elle est au bout de mon petit doigt. Quand vous pressez votre petit doigt, vous pressez votre âme. Et elle est chez lui. C'est bien évident. C'est vous coincez votre doigt dans la porte, vous gémissez, c'est votre âme qui gémit. C'est bien évident. C'est votre âme, elle est présente à tout votre corps. Elle n'est pas plus présente à une partie du corps qu'à une autre. En tant qu'âme qui détermine votre corps, en tant que substance, elle est indivisible. Mais il y a les degrés de vie. Alors, les degrés de vie montrent qu'il y a diverses opérations. Alors, vous avez toute la vie végétative. La vie végétative peut être localisée. On fera un cours d'anatomie pour bien montrer toutes les parties du corps et montrer comment toutes les parties du corps se tiennent, parce que c'est un organisme, et que toutes les parties du corps se tenant, il y a des lieux particulièrement importants. Et qu'on dit ordinairement que pour le rein, on peut vivre avec un seul rein. Il y en a quand même deux. Alors évidemment, c'est peut-être le pneu de rechange. C'est peut-être ça. On a besoin de ça, parce que s'il y en a un qui marche mal, l'autre vendra. On se demande toujours si ces analyses-là sont tout à fait justes, parce qu'il doit y avoir quand même. Hein. C'est dit, c'est sûr, on peut vivre avec un seul rein. Il y a des personnes qui vivent avec un seul rein. Alors évidemment, quand le rein est attaqué, on sait tout ce que ça peut amener. Parce que le rein purifie le sang, mais au lieu de la purification du sang, c'est du reste très beau. Le cœur, il n'y en a qu'un. C'est dommage qu'on n'ait pas un cœur à droite et à gauche pour un cœur de rechange. Ce serait bon d'avoir un cœur de rechange. Le pancréas, ce serait très intéressant de voir tout ça. Alors tout ça, c'est l'anatomie au niveau proprement biologique. La science biologique nous donne tout l'aspect de la cause matérielle et des dispositions. C'est bien évident, je suis tout à fait d'accord, que ce serait très important de faire avec la philosophie d'Aristote du péripsychèse le complément des parties des animaux. Aristote a écrit un livre des parties des animaux et depuis Aristote, on l'a pas réécrit. Vous voyez comme on est paresseux. Alors aujourd'hui, on a d'une part la science biologique, d'autre part la philosophie du vivant. Il faudrait que les deux puissent s'unir. Autrement dit, il faudrait qu'un philosophe puisse travailler avec un biologiste. Ordinairement, les philosophes sont pris, les biologistes sont pris, mais au fond, ça devrait pouvoir se faire. Pour essayer de préciser, j'ai essayé plusieurs fois, et puis pratiquement, c'est très difficile, parce que ce serait très important. Je crois que quand on écrit un livre sur la philosophie du vivant, il faudrait compléter tout ce que je vous enseigne maintenant par tout un aspect de causes matérielles qui seraient les organes appropriés dans la mesure où on peut les préciser, parce que au point de vue purement anatomique et au point de vue purement, si vous voulez, de la science biologique, on peut préciser les organes et le lien qui peuvent exister entre eux. Dès que vous êtes au niveau psychologique, c'est-à-dire des passions, comme c'est difficile, c'est pour ça, hein. Dans quelle faculté ou quelle partie du corps faut-il localiser le point de vue de la passion, le concupiscible, parce que c'est ça qu'il faudrait dire. Est-ce que le cœur qui aime? Si oui, comment? C'est merveilleux, toi. Si oui, comment? Est-ce que le cœur qui est le siège des affections et de la volonté? La glande, n'est-ce pas, pour Descartes, la glande idéale qui donne le point de vue. Dans l'amour, quel lien y a-t-il entre la volonté et le cœur? Très important, très intéressant, très difficile à répondre. Je vous ai déjà cité cette expérience qui a été faite. Je ne sais pas si c'est une expérience, parce que j'ai simplement lu le rapport, entre Médor et Azor, vous savez bien. On coupe la tête de Médor, on coupe la tête d'Azor, et puis vous remettez la tête de Médor sur le corps d'Azor, et la tête de Médor. Et vous appelez Médor, lequel va répondre, la tête ou le cœur? Très grave question, ça. Eh bien, dans un article que j'ai lu, on prétendait que cette expérience avait été faite, et on disait que c'était le cœur d'Azor qui répondait, et pas la tête. Je l'affirme pas plus, parce que c'est peut-être un canular merveilleux, n'est-ce pas, un canular philosophique pour répondre à ça, vous voyez. Qu'est-ce que... Parce que le nom, c'est pas la faculté du concupiscible, c'est pas la faculté de l'irascible. Le nom, c'est l'estimative. On n'en a pas encore parlé, hein. L'estimative. Les anciens parlaient de l'estimative, pas Aristote. Ça vient des Arabes. Ça vient d'Avicenne et de toute la philosophie arabe, mais en continuité avec Aristote, en continuité avec les néoplatoniciens. Alors, ils parlaient de l'estimative pour l'animal. C'est grâce à l'estimative et à l'imaginaire que l'animal peut être dressé. Un dressage d'éléphant. On a tous vu ça, le dressage des dauphins. Quand vous irez au Canada, parce que c'est là où c'est le plus mieux, aux chutes du Niagara. Non, j'ai pu y aller, ça m'intéressait d'aller aux chutes du Niagara. Du côté canadien, pas du côté des États-Unis, parce que du côté des États-Unis, c'est lamentable, les chutes du Niagara. Du côté du Canada, c'est beaucoup mieux. Ça. Et alors, il y a là un musée extraordinaire de dauphins éduqués qui font des trucs invraisemblables, vraiment des choses extraordinaires. Ça vaut la peine, c'est un cirque merveilleux. Dresser. Des animaux qui sont très faciles à dresser et qui font des pirouettes de premier ordre. C'est beau à voir, c'est du reste très beau parce que c'est fait avec beaucoup d'astuces. On voit des danses de dauphins. C'est beau. C'est ces animaux qui obéissent à un petit coup de sifflet, rien du tout. Bon, tout ça, c'est l'estimative. Il y a une possibilité d'éducation. C'est pas le concupiscible. Le concupiscible est beaucoup plus répandu à travers tout notre corps. Vous voyez, nous sentons la douceur d'une caresse. Ah oui, vous sentez la douceur d'une caresse. Quand vous sentez la douceur d'une caresse, c'est quoi? C'est la passion. Mais c'est pas la passion toute seule. Il y a la volonté aussi. Hein? Toujours le jugement d'existence qui est toujours présent. Vous n'avez jamais une passion à l'état pur. Vous êtes passionné pour un aliment. Pour le whisky. Hein? Vous êtes passionné pour ça. Vous êtes passionné pour ça. C'est un jour où il n'y a pas de whisky, vous êtes de mauvaise humeur. C'est évident que si on avait un noviciat au whisky, ça irait beaucoup mieux, ça c'est évident. Ça irait beaucoup mieux, on serait euphorique du matin jusqu'au soir, tandis qu'évidemment il y a une baisse fatalement, les forcés, ça ne peut pas se sentir autrement. Les gens qui étaient habitués à ça ne sont plus, et là ça fait une baisse. Je vois que le frère Prière a des idées pour faire la question du noviciat, pour lorsqu'un frère est un peu souffrant, bon petit. Alors on dira. À l'Égypte, fait le frère Prieur, il vous redonne du courage. Il vous redonne du courage. C'est une manière merveilleuse. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, nous savons très bien que la langue est remplie de petites papilles qui permettent de sentir le goût et de le sentir avec plus d'acuité. Bon, ça, c'est l'éveil des passions. La connaissance et l'éveil des passions. Tout concupiscible suit le point de vue de la connaissance. Il y a un concupiscible qui est très attaché au toucher. Le toucher, c'est la sensation la plus proche du concupiscible. C'est facile à s'en apercevoir. Et les gens sensibles, comme on dit, carnes mollas, hein, la fameuse parole d'Aristote qui a été reprise par saint Thomas. Carnes mollas. Donc, il y a des sensibilités plus ou moins grandes. Comme vous, dans une communauté, il y a des sensibilités d'hippopotame. Ça arrive, que voulez-vous. On ne va pas lui refuser parce qu'il a la sensibilité d'hippopotame. On ne va pas recevoir uniquement en noviciat ceux qui ont une sensibilité particulièrement sélecte, super douée dans la sensibilité. Vous voyez, dans ce noviciat, on ne reçoit que les suivants. Parce qu'autrement, ils se font trop mal. Le Père Doux disait qu'il y avait toujours dans une communauté des gens qui étaient des pivoines et des violettes. Et la providence fait que la pivoine et la violette se suivent. C'est extraordinaire. toute leur vie, parce qu'avant, on avait l'ordre de profession, maintenant tout ça est un petit peu changé. On avait un ordre de profession au cœur, au réfectoire, partout, partout, ça vous suivait. Vous étiez collé aux frais. Hein. Aujourd'hui, on laisse un peu plus de liberté. C'est bien, du reste. C'est bien, je crois que c'est mieux. Mais avant, c'était comme ça. On avait un rang de profession. Et le rang de profession, moi, j'ai un rang de profession depuis le père Lacordaire. 825, mon rang de profession, depuis le père Lacordaire. Donc, j'ai un numéro, 825. Forcément, il y avait 824 et 826. Ça ne pouvait pas être autrement. Et comme il y a deux cœurs, et forcément, ça sautait d'un cran. Alors, éternellement, j'étais encadré. Bon. Alors, il peut y avoir une pivoine et une violette. La providence fait toujours très bien les choses. Alors, on peut avoir l'un qui a une sensibilité d'hippopotame à côté de la sensibilité, je ne sais pas, moi, d'un super doué, enfin du sensible. C'est vrai que notre sensibilité et nos passions sont éveillées par le point de vue du toucher. Pas uniquement. Le regard. Un vieux père maître disait « C'est les regards qui comptent au point de vue affectif et au point de vue passionnel. » Ah, ton regard, oh. Moi, je me souviens, c'était... Parce que ça existe dans tous les officiels. Là, il n'y a pas d'originalité, vous savez, c'est comme... les liens affectifs, c'est comme ça. Alors, il y avait, je me souviens, c'était au Solchois, il y avait un bon frère convert, merveilleux, d'une simplicité, vous allez voir. Pendant toutes les raisons, pendant toute la méditation du matin, il fixait le petit novice qui était en face de lui. Ah, il dévorait des yeux, c'était visible. Oui, ça le portait à la dévotion. Il le disait, on disait, écoutez, un peu de modestie derrière. Ah non, mais moi, ça me fait prier. C'est une icône vivante, ce petit. Il est si charmant, il est si merveilleux. Il le dévorait des yeux. C'est évident que la passion passait par le regard. La passion peut passer par le regard, c'est évident. Ça peut passer par... Mais c'est pas nécessairement, vous allez me dire, alors c'est le regard. Toute passion implique une connaissance sensible. Il y a des gens qui... C'est la musique. Voilà, la musique, tout de suite. Il y a un petit air de musique qui est extraordinaire, qui le met tout à fait. C'est sans doute la musique prénatale qui les a mis dans cet état-là. Et ils la retrouvent, et alors ils sont tout de suite détendus. C'est vrai que ça dépend. D'autres, c'est l'odorat. Donc, toutes les passions passent par les sens. Vous voyez, alors, quand il s'agit des sens, c'est bien déterminé. Sauf le toucher. Le toucher qui est à travers tout le corps, mais avec des pointes beaucoup plus vulnérables les unes des autres. On a étudié tout ça avec beaucoup de raffinement et beaucoup de... Et on sait que le toucher, nécessairement que toute connaissance sensible du toucher, amène une réaction affective. C'est sûr. C'est que l'éducation, vous voyez, des vertus, de la vertu de tempérance, par exemple, de la vertu de chasteté, passe par le point de vue du toucher, par la connaissance du toucher, passe par le point de vue de la modestie du regard. Des tas de choses comme ça. La curiosité, c'est le regard. La curiosité du toucher aussi. Il y a des curiosités différentes, de connaissance. Alors, les passions sont liées. Hein, puisque la question est posée comme ça, il faut quand même y répondre. Les passions sont liées aux différents aspects, c'est pas des connaissances. C'est lié aux connaissances. Là, c'est sûr. Le siège de la passion, comme on dirait au point de vue philosophique, le siège de la passion, c'est-à-dire l'organe particulièrement adapté à la passion amour. Je crois qu'elle lie au toucher. Plus au toucher qu'au regard, mais bien que ce soit touché au regard. Mais c'est pas le regard, c'est autre chose. Alors où se trouve-t-elle? C'est pas le nerf sciatique, mais ça peut faire grincer quelquefois. Il y a des choses qui font... Les nerfs ne sont pas, des choses. Alors, ça reste très caché. Et je crois qu'on ne peut le détecter qu'à partir de certaines réactions. Alors les réactions, vous comprenez que la réaction, elle est réaction nerveuse ou des réactions de tout simplement, vous réagissez plus ou moins vite, plus ou moins lentement, et c'est ça qui intéresse la nervosité des gens, mais c'est pas ça la faculté passionnelle. Je crois que la faculté passionnelle est toujours très liée à la connaissance, à la connaissance sensible. Alors c'est là où il faudrait étudier ça au point de vue proprement biologique. Ce serait intéressant à voir. Ceux qui ont fait des études de médecine sont particulièrement indiqués dans ce domaine-là. Et si alors ils ont des intuitions particulières, ils pourraient venir me trouver, on pourrait faire un petit tableau pour essayer de communiquer ça. Parce que c'est intéressant, c'est pas du tout à négliger, c'est intéressant. J'ai beaucoup pensé quand j'ai commencé à écrire la philosophie du vivant. Alors je l'ai faite avec un biologiste à ce moment-là. Mais hélas, je l'ai prêté à quelqu'un, c'est jamais revenu. Alors, ça fait partie des papiers qu'on passe et qui ne reviennent jamais. J'avais fait toute une étude sur la vie végétative et la vie proprement sensorielle, à point de vue anatomique. Et c'est intéressant. On doit le faire, vous voyez, c'est parmi vous, il y en a qui ont des connaissances vraiment anatomiques et qui lisent. Qui suivent le cours du vivant, essayez la cause matérielle. Moi, je vous développe avant tout, vous voyez, la faculté. C'est ça qui m'intéresse au point de vue philosophique. La cause matérielle n'apporte pas grand-chose au point de vue philosophique. Préciser le lieu, très bien, mais c'est très difficile d'abord. C'est la cause matérielle. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de préciser l'objet. Parce que ça me fait connaître vraiment ce que c'est que l'amour. Tandis que pour moi, purement biologique, je ne connais pas ce que c'est que l'amour. Je le connais philosophiquement et je connais la haine. Oui. Donc c'est voir le côté de l'objet, c'est ce que nous faisons. L'objet fait appel à la faculté et je ne la connais, la faculté, que par l'exercice même de l'amour. J'ai conscience d'avoir un amour passionnel. Tous, nous avons conscience d'avoir un amour passionnel pour certaines choses, pour certaines personnes. Celui qui n'aurait jamais eu conscience d'un amour passionnel, c'est triste. Aristote dit que c'est l'insensibilité, et Aristote dit que c'est la chose la pire. C'est pas un vice, mais c'est pire que le vice, il dit. C'est très curieux. L'insensibilité, celui qui ne sent rien, absolument rien, qui n'a jamais rien senti de sa vie, c'est une brute. Alors il fait souffrir les autres parce qu'il ne sent pas. Je vous dis, la sensibilité de l'hippopotame, je ne sais pas si, mais je crois que l'hippopotame est une bête qui n'a pas tellement de sensibilité. Non, ça écrase les gens. On a plutôt l'impression, je n'ai pas l'impression que c'est une grosse sensibilité l'hippopotame. Je ne sais pas, après tout. Hein. Il faudrait piquer un peu, mais c'est difficile hein, de le piquer. Hein, vous auriez de ces petites vengeances qui seraient méchantes. Alors, bon, alors voyez, c'est ça la question. Alors ne dites pas que le cœur est le siège de l'amour. Ça, c'est symbolique. Laissez ça au poète. J'ai le cœur blessé. Oui. Mais regardez bien, il n'est pas blessé du tout. Mais il est blessé, vraiment. J'ai le cœur blessé. Je suis blessé dans mon amour. Mais c'est pas mon cœur qui est blessé. C'est mon amour ce qui est blessé. Et c'est mon être sensible qui est blessé. Alors, le cœur joue un rôle très important au niveau passion. La preuve, c'est que quand vous êtes passionné, vous avez une réaction au cœur. Tout de suite. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est pour ça que lorsque les gens ont leur cœur qui ne va plus bien, on leur dit évitez toutes les émotions. Évitez toutes les passions. Mais ordinairement, justement, parce que leur cœur est faible, ils auront ces détentes effrayantes. Hein. On leur dit d'éviter. Parce que le cœur, à la fois, modifie sûrement les états passionnels. Source et organe qui modifie. Tout ce qu'on appelle, vous voyez, sentiment, affection, passion. Alors, il faudrait préciser ça. Sentiment, affection, passion. Claude Bernard, quand il parlait de la méthode de la science expérimentale, c'est un petit livre qu'il faut avoir lu dans sa vie, ça, au point de vue critique. C'est un petit livre très très beau, hein, merveilleux sur la méthode de la connaissance expérimentale. Bon, dès qu'il touche le domaine philosophique ou métaphysique, il dit sentiment. Un coup de patte, sentiment, parce que ce n'est pas dans la méthode scientifique expérimentale. Tout ce qui n'est pas de la méthode philosophique, tout ce qui n'est pas de la méthode connaissance expérimentale, sentiment. Alors, vous voyez, vous avez le sentiment métaphysique, qui pour moi n'est pas un sentiment, c'est une connaissance. Mais pour celui qui ignore, il dit sentiment. Alors, quelle différence est-il entre une passion et un sentiment ? J'ai un petit sentiment pour toi. Ah, vous voyez ça, la petite déclaration. J'ai un petit sentiment. C'est quoi ? C'est l'éveil de la passion. Alors, on l'appelle sentiment. On ne dirait pas un gros sentiment pour toi. J'ai un grand sentiment pour toi. Non, non, ça, c'est la passion au galop. Alors, ça ne va plus. C'est la passion au sens fort. La passion déchaînée. La passion de colère. On a tous, quand même, dans sa vie, connu certaines petites colères ou certaines grandes colères. Alors, vous voyez, le sentiment insiste plus sur l'aspect de la conscience. La passion insiste plus sur l'aspect affectif véhément. Ordinairement, c'est ça, selon le langage français, qui n'est pas un langage philosophique. N'est-ce pas ? Mais c'est ça que je veux dire. Tout ça, ça fait partie de la passion. Le sentiment, c'est un état passionnel. La passion, c'est quelque chose de très précis, parce que c'est toujours sensible, et donc c'est très proche de la psychologie. Mais ce que j'ai conscience psychologiquement, c'est tout le psychisme, ce qu'on appelle le psychisme ordinairement, au point de vue psychologique. Tout le psychisme, c'est le tissu de l'imaginaire lié à l'état affectif et passionnel. Lié à toutes les connaissances sensibles. Ça, c'est le psychique. Alors, le psychique a des ramifications énormes. Alors, il y a un psychique conscient, un psychique inconscient. Mais vous voyez, ne confondons pas. Et ça, c'est très, très important pour ne pas faire de concordisme. Il n'y a rien de plus agaçant pour un savant, le concordisme. C'est-à-dire d'oublier qu'un savant qui est en physique pense à la manière physique. Ne lui demandez pas de penser philosophiquement. Vous pourrez discuter avec lui, mais il pense au niveau physique. Le philosophe doit penser au niveau philosophique. Le théologien pense au niveau théologique. Et le psychologue pense au niveau psychologique. Et il faut qu'on sache que ce que représente ce type de connaissance, pour ne pas dire ça ne signifie rien, pas du tout, ça signifie quelque chose. Il y a une signification psychologique qui n'est pas la même signification que la signification philosophique. Alors, si je veux savoir quelle est la signification psychologique et quelle est la signification philosophique, il faut comprendre justement ce que nous faisons maintenant. Nous essayons d'analyser l'amour. L'amour passion. Et saint Thomas fait ça dans un traité de théologie. Extraordinaire de faire ça dans un traité de théologie. Il fait la théologie de la passion. Et c'est très original de la part de saint Thomas de faire ça. Cherchez dans les sentences, hein. Vous ne trouverez pas ça. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est ça qui est intéressant à faire. Ceux qui s'intéressent à la pensée de saint Thomas et à l'originalité de la pensée de saint Thomas, ayez toujours les sentences de Pierre Lombard et le commentaire de saint Thomas. Évidemment, il n'est pas traduit en français. Et on peut quand même se plonger dedans. Disons. Alors, il y a les sentences, le commentaire de saint Thomas, et puis la somme. Entre deux, la somme contre les gentils. Il est toujours intéressant de voir les traités qui ont été repris et les traités qui ont été ajoutés. Et quand vous voyez des traités qui ont été ajoutés dans la somme théologique, vous pouvez dire, ah, ça, il y a des chances que ce soit original de saint Thomas. Alors vous faites la petite enquête, facile, vous regardez sa bonne aventure, et vous cherchez le parallèle. Et vous voyez que si dans sa bonne aventure, il y a la chose ou pas. Et puis, ainsi de suite. C'est comme ça que vous pouvez avoir l'originalité de la pensée de saint Thomas. Eh bien, le traité des passions est très original de saint Thomas. Eh bien, comment saint Thomas étudie-t-il l'amour, la passion amour? Il l'étudie par le point de vue de l'objet. Il étudie par le point de vue des effets. Que nous faisons maintenant. L'objet de la passion amour, c'est quoi? C'est le bien, sensible. Tout amour passionnel se porte sur un bien sensible. Tout amour passionnel se porte sur un bien sensible. Ce bien sensible, pour que la passion s'éveille, implique une connaissance. Une connaissance sensible. Il n'y a pas de passion sans connaissance sensible. Alors, comment je connais le bien sensible? Posez-vous la question. Comment connaissez-vous le bien sensible? Le bien sensible chocolat. Parce qu'il y a un bien sensible qui s'appelle chocolat. Donc, le bien sensible chocolat, vous le connaissez comment? En le touchant? Non. Oui, il faut le goûter. Il faut le goûter, il faut le déguster. Il faut le goûter, le bien sensible chocolat. Donc, vous le connaissez par la connaissance sensible du goût. Et l'affectivité qui suit à la connaissance sensible, c'est encore le goût. Le goût connaît et il est pris par l'affectivité d'un certain amour. Ah, oh, ce que j'aime le chocolat. Vous dites ça en le dégustant. Ça suit immédiatement. Et si vous regardez le petit chat, il se lèche bien les babines après, hein, parce qu'il est pour ne rien laisser passer à côté, c'est tellement bon, hein, il ne faut rien laisser, non, on lèche le plat. Alors c'est tout à fait ça. Vous voyez, c'est le point de vue de la connaissance et l'affectivité qui est liée immédiatement après. C'est la même chose pour le toucher. Alors vous détectez les connaissances sensibles et vous détectez les passions. Par le point de vue de l'objet. Par le point de vue de l'objet, je conduis à la faculté, donc à la puissance. Et vous pouvez dire que la puissance implique nécessairement un organe sensible. Donc il y a l'organe sensible. Alors là, pour détecter l'organe sensible, je peux demander l'aide du biologiste. Je peux demander l'aide de celui qui fait l'anatomie du corps humain. Il y a un organe sensible. C'est difficile parce que je précise moi en fonction de la puissance, en fonction de l'âme et en fonction de mon activité, de ma connaissance objective. Donc vous voyez l'analyse qui se fait par les quatre causes. Cause, l'objet, c'est la cause qui spécifie. Le point de vue de la puissance, c'est la cause efficiente. Le point de vue de l'organe, c'est la cause matérielle. Et la cause finale de la connaissance sensible, c'est la connaissance sensible. La cause finale pourrait aller plus loin. Vous pouvez dire, la connaissance sensible, elle est pour la connaissance spirituelle, intellectuelle. Ma connaissance sensible, elle est pour mon état affectif passionnel. Vous voyez que lorsqu'il s'agit de la connaissance sensible, vous ne pouvez pas préciser bien la causalité finale. Nous avons vu que la vie sensible est chaotique, elle est anarchique, elle n'a pas de finalité propre. Il y a des finalités secondaires, humaines. La finalité humaine de la connaissance sensible, c'est la connaissance intellectuelle. La finalité humaine de la connaissance sensible, c'est la connaissance artistique. La finalité humaine de la connaissance sensible, ça peut être l'aspect affectif. Il n'y a pas de finalité propre. C'est très curieux, ça. Mais les autres causalités, vous pouvez les donner. Bon, ça, c'est l'analyse philosophique de la passion. Qu'est-ce que fait le psychologue? Je vous ai déjà dit que la psychologie ne peut rien nous dire sur l'amour. On regarde le désir sensible. Et on essaie de voir comment un désir peut en appeler un autre. Alors ce sont les voies psychologiques. Ce sont les voies psychologiques qu'on cherche. On n'étudie pas ce qu'est la passion en soi. Non, ça le psychologue ne regarde pas la passion en soi, c'est le philosophe. Mais on regarde les liens qui existent, les connexions qui existent, les connexions nécessaires, les lois. Qui existe entre l'éveil de tel désir et telle conséquence. On regarde les liens qui existent entre l'éveil de tel désir et l'imaginaire. Alors, c'est des liens d'antécédents et de conséquences. Et quand on s'aperçoit que, ayant posé telle chose, nécessairement suit telle autre chose, vous établissez des lois psychologiques. Donc, vous voyez que la loi psychologique est toujours du côté du conditionnement et de l'exercice. C'est toujours dans l'exercice du conditionnement, dans l'exercice. C'est dans l'exercice que je saisis le conditionnement de mes passions. Or, l'exercice de mon conditionnement de mes passions, c'est quoi? C'est que les passions impliquent toujours un devenir. Un devenir dans l'ordre sensible. Les passions, c'est un mouvement. C'est le flux et le reflux, constamment. C'est un être passionné est agité. Ça, c'est sûr. Ça se voit. Il y a une espèce d'agitation. C'est pour ça que le Bouddha est tout à fait passif, paisible. Il domine toutes les passions. C'est extraordinaire. Il domine toutes les passions. Et l'attitude du lotus, c'est pour dominer toutes les passions. Vous dominez toutes les passions à ce moment-là. Vous êtes dans une attitude de celui qui, et c'est très proche de certaines attitudes stoïciennes, l'apatheia. Il faut être insensible. Parce que la passion remue. Ben, vous savez bien. Quand vous êtes très secoué avant le soir, on vous annonce quelque chose, vous n'arriverez pas à dormir. Ça se mettra à bouillir à l'intérieur. Alors, ça, c'est les désirs sensibles liés à l'imaginaire. Alors, liés à l'imaginaire, c'est l'exercice des passions et les lois d'antécédents et de conséquents. Ce n'est pas une analyse des causes. Mais c'est uniquement les antécédents et les conséquences. C'est uniquement ça, les lois psychologiques. Donc il faut savoir que le psychologue vous dit des choses intéressantes au point de vue éducatif. Il vous dit des choses intéressantes. Il vous montre comment certains antécédents qu'on peut détecter risquent de conduire à des conséquences terribles. Il vous fait comprendre qu'il y a certaines petites réactions qui ne sont plus tout à fait normales. On va vite. D'où ça vient? Il doit y avoir une charge énorme d'inconscient en dessous, emmagasiné depuis très longtemps. Puis qui tout d'un coup éclate? C'est le volcan qui éclate. Alors, c'est toujours très difficile, vous voyez, au point de vue psychologique, surtout, de saisir les charges d'inconscient. Savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut. Alors, évidemment, ordinairement, quand ça réussit, on dirait c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Quand ça réussit pas, vous auriez pu faire attention. Très difficile. Parce qu'on est toujours devant quelque chose qui est un virtuel. C'est pas un acte. On est quelque chose devant de virtuel qui peut aller d'un sens ou de l'autre. C'est un terrain miné. Pour moi, l'inconscient, c'est un terrain miné. Alors, comme un terrain miné, vous savez, ça peut sauter. Alors, il y a à faire attention parce que c'est indéterminé, c'est pas entièrement déterminé. Ce qui est déterminé, c'est l'opération, c'est l'exercice. Mais l'antécédent n'est pas déterminé. Alors, il y a un facteur, un réseau de tout un tas de choses qui dépendent les unes des autres. C'est la même chose pour l'analyse des rêves. Les rêves, si on les analyse, c'est de voir les antécédents et les conséquences. D'où ça vient et où ça va. Alors, vous avez une analyse de rêve. Vous donner une signification du symbolisme des rêves. Et alors, cette signification du symbolisme des rêves, vous comprenez, c'est d'ordre psychologique, c'est pas d'ordre philosophique. Aristote a fait une étude philosophique des rêves. Hein, d'Aristote à Freud. C'est intéressant à comparer. Alors, c'est Aristote qui analyse, Freud qui analyse. Alors, l'analyse des rêves, c'est une analyse symbolique. Et ça, c'est intéressant à voir. Oui. Alors, c'est toutes ces parties-là où on comprend que le point de vue philosophique d'Aristote doit être purifié quant à la cause matérielle. Parce que les sciences positives ont perfectionné la cause matérielle quand il s'agit de la biologie. C'est pour ça que les parties des animaux d'Aristote sont si intéressantes à lire quand on a des connaissances biologiques. On s'amuse beaucoup. On voit la naïveté du philosophe. Mettez-vous à la place d'Aristote et dans l'époque d'Aristote et jugez en fonction des connaissances d'Aristote et essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a de philosophique là-dedans, qu'est-ce qui reste au point de vue philosophique. C'est pas commode, mais c'est très intéressant. Il y a une méthode philosophique qui demeure, ça j'en suis sûr. Il y a une méthode analogique qui est très très intéressante dans les parties des animaux. Et les parties des animaux, tu dis, c'est cette cause matérielle, des organes biologique du vivant en vue de que le vivant se mette à marcher, que le vivant puisse être passionné, ainsi de suite. Et alors ici, dans le conditionnement psychologique, le psychologue oblige le philosophe d'être plus philosophe. C'est ça que le psychologue, parce que le philosophe étudie lui l'objet et la fin. Le psychologue étudie le conditionnement. Le conditionnement, pour nous, nous l'appelons le pose, le comment. Il étudie le comment, alors que lorsqu'on est en philosophie, on n'étudie pas le comment, on analyse. Mais il est évident que certaines analyses psychologiques peuvent aider le philosophe à mieux saisir certains aspects qu'il saisirait moins bien autrement. Parce que toujours le discernement de ce qui est et du pose. Le philosophe doit toujours faire la distinction entre les deux. Le psychologue ne fait pas la distinction, puisqu'il est dans le pose. Il ne fait pas la distinction. Il ne faut pas demander au psychologue de faire la distinction. Ce serait demander au psychologue d'être philosophe. Et ne demandez pas au psychologue d'être philosophe. Respectez ce que représente l'étude et l'analyse du psychologue, il faut respecter son analyse, dans son plan et sur son plan, vous pouvez dire, ah là, vous avez oublié tel fait. Ça, vous pouvez. Et être philosophe permet de mieux comprendre. C'est pour ça que tout psychologue devrait être doublé d'un philosophe. Pas nécessairement en tant que thérapeute, mais pour aller plus loin, Ça, je crois. C'est pour ça que les psychanalystes que j'ai rencontrés, qui étaient vraiment, qui voulaient aller loin, comprenaient la nécessité d'une philosophie. Hein? C'est nécessaire d'avoir une certaine philosophie de l'homme. Parce que nous touchons une matière qui est une matière humaine. Et donc, il faut la connaître philosophiquement. Alors, le philosophe devrait dire la même chose. C'est très important pour le philosophe d'avoir des amis psychologues. Parce que quand on fait la philosophie politique, c'est intéressant d'avoir des sociologues. Parce qu'ils vous disent certaines choses que le philosophe ne dit pas. Et ordinairement, il parce que lui s'intéresse à son analyse, c'est ça suffit. Ça suffit, en soi ça suffit. Mais attention, la complexité du conditionnement humain, c'est d'une complexité invraisemblable au conditionnement. Et en même temps, c'est très simple. Il y a quelques lois psychologiques qui sont d'une simplicité qui reviennent tout le temps. Mais dès que vous regardez la complexité du malade, vous comprenez, c'est ça qui est très difficile, parce que quand votre psychisme est délabré, quand il tient à peu près debout, ça va. C'est exactement la même chose qu'une ruine. Hein. Quand vous voyez des murs, bon, ça va, il y a une voie verticale, ça tient. Et quand c'est tombé, ça prend une extension extraordinaire. Et c'est exactement la même chose. Quand vous tenez debout, ça va, votre psychisme, il est entièrement assumé. Il est assumé par quelque chose de plus, il est assumé par votre volonté et votre intelligence. Tandis que quand il est affaissé, quand vous êtes en pleine grise, c'est l'affaissement complet. Alors, ça s'étend. Et on ne voit plus les limites. Et c'est ça qui donne l'angoisse. Et on ne voit pas comment se reprendre. On est dedans. Et tout est miné. Alors, il reste encore combien de temps? Pas la peine. On terminera la fois prochaine. Remarquez que ce n'était pas inutile, parce que d'abord, il faut voir toujours se rappeler. Il faut essayer de préciser quelque chose. Nous précisons quelque chose, mais nous ne précisons pas tout. On ne peut pas. C'est impossible. Parce que si on se mettait à... Et il faudrait évidemment qu'un cours de la philosophie du vivant soit complété par les sciences biologiques et les sciences psychologiques. Ça, je crois que c'est très important de se le dire. Ça doit être complété par ça. Et si c'est complété par ça, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est déjà intéressant au point de vue philosophique d'étudier les passions, c'est très intéressant, mais c'est encore plus intéressant parce que c'est plus proche de nous, hein. Surtout que nous baignons dans un point de vue psychologique, hein. Nous baignons là-dedans. Alors, il faut à la fois ne pas mépriser la psychologie, voir où elle se situe et comprendre ses limites. Et pas trop vite affirmer le point de vue philosophique, parce que ça agace terriblement les psychologues. Quand vous travaillez avec des psychologues, taisez-vous au point de vue philosophique. Soyez plus intelligent qu'eux en étant philosophe. C'est-à-dire, prenez du recul. Mais taisez-vous. Et puis, essayez de comprendre. Parce que si vous affirmez tout de suite le point de vue philosophique, ça les met en rogne. Ça, absolument. C'est comme si vous touchiez le nerf sciatique de la grenouille. À ce moment-là, vous le verriez. C'est tout de suite ça. Ça fait une espèce de... C'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine de les irriter. D'abord, il y a une miséricorde, cette charité qu'on doit vous dire. Il ne faut surtout pas. Parce que là, vous assénez des principes. Dans la passion, c'est comme principe. Hein. C'est assez particulier. C'est comme principe. C'est très difficile. Eux sont dans le conditionnement. Vous voyez la complexité. Là, ils trouvent toujours que le philosophe simplifie. Le philosophe ne simplifie pas, mais il sait saisir les arêtes intellectuelles. Mais il ne simplifie pas dans la mesure où il respecte le domaine psychologique. Dans la mesure où il reconnaît que ce domaine psychologique, il doit être étudié pour lui-même. Étudié pour lui-même, attention, si on voulait l'étudier bien, il devrait étudier en fonction de la philosophie. Et c'est ça qui n'est pas fait. Et c'est ça qu'on devrait faire pour l'éducation. On devrait...